franceinter.fr.
Il est 8h23.
Le 7-9, Marc Fauvel sur France Inter.
Bonjour David Thompson.
Bonjour.
Grand reporter à Radio France Internationale. C'est un travail rare et assez exceptionnel que vous publiez aujourd'hui, fruit de plusieurs années de travail et de rencontres avec une centaine d'hommes et de femmes partis faire le djihad au sein du groupe État islamique, dont vous nous dressez les portraits avec leurs témoignages. J'ai envie de dire brut, cru dans ce livre, les revenants, ce sont ces Français partis en Syrie ou en Irak et qui font le chemin inverse aujourd'hui, qui rentrent en France. Combien sont-ils ?
Alors, selon les chiffres officiels donc du ministère de l'Intérieur français, on estime qu'il y a une marge d'erreur de 10 à 15% sur ces chiffres-là. On est autour de 700 Français qui sont encore sur place en Syrie et en Irak. Environ 200 qui sont rentrés, 200 qui ont été tués. Donc le ratio de tués et de revenants, comme je les appelle, est à peu près d'un cinquième. Même si aujourd'hui, les chiffres sont difficiles à dresser. Il y a des combats, il y a beaucoup de morts. C'est une vraie hécatombe en ce moment dans les rangs djihadistes français. Et on ne sait pas très bien où on en est aujourd'hui. Mais à cet été, c'était ces chiffres-là en tout cas.
Qui sont-ils, ces revenants, qui se trouvent donc aujourd'hui sur le territoire français? Ce sont des repentis, des déçus du djihad?
L'enseignement que je tire de ces entretiens que j'ai menés depuis 2 ans et demi maintenant avec des Français et des Françaises qui reviennent de là-bas, c'est que pour la plupart d'entre eux, ils restent dans une radicalité religieuse. Beaucoup d'entre eux restent encore dans une radicalité violente. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est des gens qui sont déçus de leur expérience, mais qui sont pas forcément, en majorité, repentis de l'idéologie djihadiste. Beaucoup sont encore extrêmement ancrés dedans. Je vais vous donner juste un exemple. Une jeune fille qui était rentrée, dont je parle dans le livre, après un petit peu moins d'un an au sein de l'État islamique, qui avait vécu, m'explique avoir vécu toutes les injustices, emprisonnement, violence physique, confiscation de ses biens au sein de l'État islamique, et qui est revenue, et qui aujourd'hui continue de me dire, alors qu'elle est en liberté en France, l'attentat de Charlie Hebdo, c'était le plus beau jour de ma vie et j'espère que d'autres attentats seront commis comme cela sur le sol français et par des femmes, me dit-elle.
C'est pour vous dire. Le témoignage est assez glaçant.
Le témoignage est glaçant.
Cette femme est aujourd'hui
en liberté. Ouais. Voilà, en attente de procès, mais en liberté. Ça, c'est aussi. On en parlera peut-être, l'appréhension de l'engagement djihadiste féminin par les autorités françaises qui ont bénéficié de ce que j'appelle en fait un biais de genre. Quasiment sexiste.
C'est-à-dire qu'on a considéré pendant des années que les femmes étaient finalement victimes, elles suivaient leur compagnon ou leur mari, elles étaient inoffensives quand elles partaient faire le djihad et quand elles rentraient.
Absolument. On a considéré, parce que c'était des femmes, parce qu'on était dans un milieu extrêmement conservateur religieusement, que forcément, on était, pour ces femmes, dans un rapport de soumission absolue à la domination masculine. Or, moi, ce que j'ai constaté avec des entretiens que j'ai menés avec elles sur la longueur, c'est que en réalité, elles étaient au minimum aussi déterminées, aussi fanatisées que les hommes, sinon plus. C'est-à-dire que j'ai connu des couples djihadistes dans lesquels le moteur de la radicalité, jusqu'au passage à l'acte terroriste, n'était pas l'homme mais la femme.
Que deviennent ces hommes et ces femmes une fois qu'ils rentrent en France, une fois qu'ils ont franchi la frontière ?
Il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, et ça c'est le cas depuis quasiment 2014, le retour pour les hommes rime systématiquement avec incarcération immédiate. Aujourd'hui, ça c'est le traitement est identique à peu près pour tout le monde.
Quel que soit ce qu'ils ont fait là-bas ou ce qu'ils disent avoir fait là-bas.
Dans un premier temps. Ensuite,
des gens sortent de prison. Vous avez des témoignages d'un djihadiste, ou on ne sait pas s'il l'est, qui dit que lui, il s'est endormi dans une voiture et puis qu'il s'est réveillé quasiment à Raqqa, il était au mauvais moment.
Je pense que c'est un témoignage qui doit encore faire rire les enquêteurs de la DGSI. Et finalement, il a fini par livrer une version un petit peu plus crédible par la suite. Effectivement, ce jeune disait, quand il rentre de Syrie, si vous voulez, ils étaient tous infirmiers.
Et personne n'avait combattu quand on les entend.
À croire que l'État islamique est une œuvre de charité, une ONG, non. La quasi-totalité des Français qui sont dans les rangs de l'État islamique étaient à des postes de combat, pour la simple et bonne raison que pour eux, les postes administratifs sont difficiles d'accès au sein de l'État islamique, parce qu'ils ne parlent pas arabe pour la plupart d'entre eux. Or, il faut parler arabe. Ces postes-là leur sont fermés. Au retour, donc prison, mais beaucoup sont aujourd'hui en liberté. Certains que j'ai pu voir ont même été jugés et libérés. Donc, jusqu'à l'été dernier, il y avait vraiment un traitement au cas par cas. C'est-à-dire que j'ai vu un jeune du livre que j'ai j'ai suivi pendant un an et demi après sa libération, que je voyais quasiment, on va dire, une fois toutes les deux semaines, hein, pour vraiment l'idée. En fait, l'idée de ce travail, c'est de comprendre comment on devient djihadiste. Est-ce qu'il y a un substrat qui favorise cette bascule? Et la réponse, évidemment, elle est oui. Et le corollaire, c'est cela n'arrive pas, ne peut pas arriver à tout le monde, contrairement à ce que un certain discours gouvernemental pourrait laisser croire. Et puis, qui sont ces gens au retour? Et puis voilà. Donc, je vous parle de ce jeune parce que lui, si vous voulez, il a pris une très faible peine de prison. À côté de ça, alors qu'il a passé un an au sein d'Al-Qaïda, puis de l'État islamique, alors que vous avez un groupe, un autre groupe, le groupe de Strasbourg, celui dont était issu l'un des kamikazes du Bataclan, qui, eux, ont passé 4 mois en prison et ont pris 9 ans de prison. Donc, 4 mois en Syrie, pardon, et ont pris 9 ans de prison. Donc, vraiment, la justice prend en compte au cas par cas le discours de chacun, le degré de radicalité, etc.
On va parler, si vous voulez bien, avec les questions des auditeurs, de ce que racontent ces djihadistes, repentis ou non, de la vie qu'ils ont connue en Irak et en Syrie. Je voudrais qu'on dise un mot de votre méthode, David Thompson, qui est parfois critiquée. C'est du journalisme embarqué quasiment dans le djihadisme. Vous rencontrez des dizaines de témoins. Est-ce qu'à force de les laisser s'exprimer, vous ne les rendez pas finalement presque parfois sympathiques?
Je pense pas qu'on puisse les rendre sympathiques.
Il y a des gens qui sont paumés dans vos portraits, qui sont paumés, pour qui la vie a été difficile, et finalement, on expliquerait presque, on comprendrait, avec plein de guillemets, presque leur départ.
Mais si vous me dites ça, je suis content, ça veut dire que j'ai atteint mon objectif, évidemment. Le seul but de ce travail, c'est de comprendre comment on devient djihadiste. Et moi, je suis parti d'un principe simple. Pour comprendre comment on devient djihadiste, comment un acteur social fait ce choix-là, bascule dans une telle radicalité, une telle pulsion de violence, la seule façon, c'est de lui poser la question et de mener des entretiens avec lui.
Donc, vous avez parfois éprouvé de la sympathie pour eux? Au premier sens du mot.
Enfin. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas là pour avoir de la sympathie ou de l'antipathie pour qui que ce soit. Vous êtes là pour comprendre et pour rendre intelligible cette pensée, cette idéologie au grand public. C'est tout l'objet de mon travail. C'est vrai que ma démarche, elle peut être critiquée parce que c'est une méthodologie très particulière. Moi, j'ai fait le choix dès le départ de ne travailler qu'à partir de ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle dans le monde universitaire, des sources primaires. C'est-à-dire...
Pas de source judiciaire, par exemple.
Pas de source secondaire, pas de PV de justice, parce que je considère que les sources secondaires sont par nature biaisées. J'ai eu la possibilité de le faire parce que j'étais correspondant pour Radio France Internationale en Tunisie, au lendemain de la Révolution, et qu'à ce moment-là, si vous voulez, sous mes yeux, se déroule cette ébullition djihadiste post-révolutionnaire qui fait qu'aujourd'hui, la Tunisie est le pays le plus touché au monde par ce phénomène, sans proportion de sa population ou en chiffre absolu, parce qu'on considère qu'il y a 6 millions de Tunisiens, selon la fourchette haute, qui sont partis pour 11 millions d'habitants.
Combien de Tunisiens, pardon?
Exportateurs, mais pas le
absolument.
Plus touché.
Alors, mais je suis tout à fait d'accord, mais les Tunisiens n'aiment pas qu'on dise exportateurs. Donc...
David Thompson, invité de France Inter jusqu'à 9h05. On vous retrouve dans quelques minutes après la revue de presse pour parler de ce livre, Les Revenants, que vous publiez donc aujourd'hui. On évoquera aussi les tentatives de déradicalisation. Un tout petit mot, une petite précision de notre invité, votre langue a fourché.
Ma langue a bien sûr fourché, mais excuse aux Tunisiens, 6 000 et non pas 6 millions de djihadistes qui sont partis en Syrie, en Irak, bien sûr.